Alors nous allons lire un premier texte que je développerai certainement mardi, mais qui est très important. Je sais que plusieurs d'entre vous ce matin ont des besoins, plus que d'autres. Je voudrais que vous notiez, en tous les cas peut-être avec un marque-page, ce texte dans Hébreu, au chapitre 5, un texte qui nous parle de la façon dont Jésus a été exaucé. Nous y reviendrons. J'ai lutté dans mon cœur, je ne savais pas si c'était ce texte qu'il fallait que je partage ce matin ou l'autre texte qu'on va lire tout à l'heure. En tous les cas, celui-ci va nous servir d'introduction, mais en dit beaucoup sur la prière. Regardez bien, mes frères et sœurs, peut-être que vous n'y avez pas fait attention. Hébreux 5, verset 6. On va, le verset 7, ça suffit. C'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Mes frères et sœurs, soyons intelligents. Il a fait des prières, mais il n'a pas été exaucé qu'à cause de ses prières. Ce texte nous dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Et je crois, dans un contexte où beaucoup de chrétiens, et il y en a peut-être parmi nous, n'ont que l'apparence de la piété, ça vaut peut-être la peine de comprendre ce qu'est la piété. Nous l'aborderons certainement mardi. Mais mes frères et sœurs, je vais quand même vous donner, parce que je l'ai à cœur, quelques définitions de la piété. Je suis persuadé que plusieurs parmi nous ce matin ont besoin de comprendre ce qu'est la piété. D'autant plus que la piété, par exemple, il est dit, exerce-toi la piété, elle a la promesse de la vie présente. Que les promesses que Dieu a pour nous dans le présent, c'est-à-dire aujourd'hui, sont liées à la piété. Quand il est dit que la piété et le contentement sont une grande source de gain, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de cette parole, le contentement d'un homme est lié au fait qu'il développe une véritable piété. Alors, qu'est-ce que c'est la piété? Alors, j'ai marqué quelques définitions de la piété pour vous aider, à nous aider, à la réaliser davantage. Puisque nous ne sommes pas exaucés que par rapport à nos prières, nous sommes également exaucés par rapport à notre piété. Je vous donne ce que j'ai relevé. C'est la piété, c'est la preuve de notre amour pour Dieu, une preuve, qui se manifeste par l'attachement au service, à la pratique des commandements, au devoir accompli dans l'obéissance à sa parole. Si vous prenez des notes, je vous donnerai tout à l'heure la définition. La vraie piété est la preuve de la nouvelle naissance, là aussi. Combien de chrétiens ne sont pas nés de nouveau? Ça a énormément affaibli le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont des chrétiens que de nom. Ils sont chrétiens, mais en vérité, c'est des vrais païens. La vraie piété est la preuve de la nouvelle naissance et d'une vie transformée qui devient agréable à Dieu. Certaines versions ont traduit le mot piété par le mot soumission. Ça, c'est excellent. Certaines versions ont traduit le mot piété par le mot soumission. La piété est la manifestation visible de notre amour pour Dieu, de notre foi dans sa parole et de notre obéissance joyeuse à ses commandements. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce dans la prière, le Seigneur écoute la prière, mais il regarde aussi l'intercesseur, c'est ce que nous venons de lire, que Jésus a fait des prières et des supplications, mais qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, la piété rend Dieu plus attentif à la prière. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé pour le Seigneur Jésus. Exaucé à cause de sa piété. Vraiment, c'est mon introduction. Ça se lit très bien ce que l'on va partager maintenant, parce que pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est un devoir. Pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est un fardeau, c'est une corvée. Il faut prier. Ils n'ont pas compris que même si, comme on le disait tout à l'heure, si la prière peut devenir un combat, Elle devrait devenir un bon combat. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Si c'est un mauvais combat, c'est que c'est un combat charnel. C'est des choses qui doivent être absolument réglées. Mais la prière, c'est quand même un moment de grâce. Puisque nous nous approchons du trône de la grâce. C'est un moment de communion, la prière. Oui ou non? C'est quoi la prière? Sinon, la prise de conscience que je suis dans la présence du Seigneur. Alors j'aimerais qu'on lise quelques textes ensemble, des textes que vous connaissez bien, on va lire dans Luc. Dans Luc 22, au verset 31, il y a des combats, on le sait, il y a des combats intérieurs. Vous savez ce que c'est, les luttes intérieures? Vous savez comment c'est pénible, les combats intérieurs? Oui ou non? Si quelqu'un n'en a pas, eh bien, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment béni. Regardez ce que Jésus dit à Simon. Luc 22, 31. Rendons-nous compte que nous allons... Mes frères et sœurs, je voudrais... Si la prière est une difficulté pour vous, cette prédication, elle est pour vous. Je répète. Si c'est pour vous difficile d'avoir une vie de prière, cette exhortation... elle est vraiment pour vous. Et je vous demande en tant que pasteur d'être solennel avec cette prédication. Parce que la prière est le cœur de l'Église. Ma maison sera appelée une maison de prière. Regardez bien ce qui peut se passer dans le cœur d'un homme. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais... qu'est-ce qui se passe? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus aurait pu dire, écoute, le Satan t'a réclamé, mais t'inquiète, cela ne t'arrivera pas, je l'empêcherai. Il avait besoin d'être criblé intérieur. Criblé, ça veut dire être agité intérieurement. Vous savez combien c'est désagréable. Toutes les fois, on combat intérieurement. C'est inévitable. On a parlé dimanche dernier de l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. On a besoin d'être éprouvé. Mais un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui n'a pas compris quelque chose. Et ce matin, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut aider tous ceux qui ont des vrais problèmes avec la prière. Il faut le régler. Regardez au verset 40. Regardez bien ce que Jésus dit. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez !» Pourquoi ? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi tant de chrétiens sont tombés ? Parce qu'ils étaient, moins bons que nous, c'est ça, non ? Des chrétiens sont tombés dans la tentation, même pas parce qu'ils étaient moins bons que nous, c'est ridicule. Ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas prié. Regardez bien. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, qu'est-ce qu'il fait notre Seigneur? Il prie, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva. Comment il les trouve? Endormis? De quoi ils sont endormis? De tristesse. Vous savez, la tristesse, ça peut nous appesantir. Il y a des gens, dès qu'ils sont tristes, c'est terminé. Ça arrive, ne jugeons pas. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dans le chapitre qui précède, au verset 34, regardez ce que Jésus demande pour être prêt. Beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts parce qu'ils n'auront pas pris ce sujet avec sérieux. Peut-être que nous, les pasteurs, nous sommes responsables. Mais je peux vous dire que ce matin, je ne le serai plus. Luc 22, 34, prenez garde à vous-même. Vous savez, nous, on fait attention aux autres, mais des fois, on ferait mieux attention de faire attention à nous-mêmes. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les accès du manger, du boire, par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et nous pourrions, on va en prendre encore un, dans Marc. Ces textes-là sont nombreux. Marc, chapitre 13. On va prendre le verset 23, parce que souvent on demande au Seigneur, mais parle-moi, parle-moi. Regardez bien ce qui est écrit dans ce verset. Marc 13, 23. C'est un verset qui devrait nous régler cette affaire de savoir ce que Dieu a à nous dire. Marc 13, 23. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Tout ce que nous avions besoin de savoir. Bien sûr que nous aimerions, vous aimeriez savoir comment sera votre maison dans le ciel? Vous aimeriez savoir? Vous aimeriez? Ben oui, moi j'aimerais bien savoir. Mais on n'a pas besoin, c'est pas grave, vous inquiétez pas, elle sera bien. Vous inquiétez pas. Ça sera certainement mieux que ce que vous pensez. Mais ce qu'on a besoin de savoir, Jésus a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. Verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis au pasteur. Veillez. Non ? Comment vous avez dans votre Bible ? Eh oui, ce que je vous dis, je le dis à tous. Alors je le répète. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Ce que je vais partager avec vous ce matin, je dois l'avoir déjà dit d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que moi, je voulais apporter une prédication sur cette affaire de piété, exaucée à cause de la piété. Je sais que c'est quelque chose qu'il me faudra apporter. Mais ce matin, je sais dans le plus profond de mon âme qu'il faut que je m'adresse à tous ceux pour qui la prière est une difficulté. Le Seigneur, il veut vous aider, c'est évident. Comment vous écouterez cette prédication? Est-ce que vous l'écouterez juste avec votre intelligence, ce qui est déjà important? Mais est-ce que vous l'écouterez avec votre cœur? Est-ce que votre cœur est ouvert? Est-ce que vraiment, si vous avez des difficultés depuis des années avec la prière, moi je le vois, il y a des gens qui sont chrétiens depuis 10 ans, ils disent « mais moi je prie, des fois je prie pas, j'en ai marre, j'y comprends rien ». C'est des gens-là qui sont aveugles. Quand quelqu'un me dit « je vois pas pourquoi il faut prier », c'est quelqu'un qui est complètement aveugle. Est-ce que votre cœur est ouvert? Vous savez que le Seigneur soit au milieu de nous, c'est une chose. Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous? Eh oui, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, de toute façon, il l'a promis. Là où deux ou trois de mes enfants sont assemblés à mon nom, je suis au milieu, dont le Seigneur est là. Que le Seigneur soit au milieu de nous, c'est bien. Que notre cœur soit ouvert, laissez-moi vous dire que c'est autre chose, même si le Seigneur est au milieu de nous. Parfois, on ne sait pas où on en est. Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui indiquent que ça peut arriver qu'on ne sait pas où on en est? Tu crois que tu es et tu ne sais pas que. J'aimerais à ce sujet lire un texte avec vous, parce que c'est important pour moi tout ce que je vais vous dire ce matin. Dans le psaume 42, David fuit. Il fuit mal, il a fui, il se rend compte qu'il n'aurait pas dû fuir. Le psaume 142, je ne sais pas si vous avez médité ce psaume. C'est un psaume, il est dans la caverne. Il est dans la caverne, il dit certaines choses. Méditez-le, ce n'est pas l'objet de la méditation de ce psaume, mais quand même, il y a deux versets qui me préoccupent dans ce psaume ce matin par rapport à la prière. Bon, il prie, il lui raconte sa détresse au verset 3. Regardez au verset 4. Psaume 142, verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Regardez bien. Sur la route où je marche, il se rend compte que, voyez, verset 5, tout refuge est perdu pour moi. Il se rend compte qu'il n'a pas besoin d'un refuge matériel. Il se rend compte qu'il a besoin d'un refuge spirituel. Et il est embarrassé. D'ailleurs, il le dit bien au verset 8. Tire mon âme. Où il est? Où c'est? Comment il le dit? Tire mon âme de sa prison. Juste une petite parenthèse pour vous expliquer que dans la parole de Dieu, les écrivains, les hommes comme vous et moi, parlent de leur âme. Comment parle-t-il de son âme dans cette affaire où il fuit? Il dit que son âme est en prison. Il dit qu'il ne sait même pas où, le chemin sur lequel il se trouve. Mais heureusement qu'il connaît Dieu et il sait que Dieu sait. David a écrit « Tu restaures mon âme », mais David n'a pas écrit que « Tu restaures mon âme ». C'est important de savoir dans quel état notre âme peut se trouver. Notre âme, il est en prison, vous rendez compte? Ailleurs, il dira dans le psaume 41, « Mon âme, guéris mon âme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'elle est malade. J'ai noté quelques paroles de David quand il parle de son âme. Écoutez bien comment il parle de son âme dans des expériences diverses. « Mon âme est affamée. Mon âme est abattue. Mon âme est découragée. Mon âme est nonchalante, languissante, souffrante. Mon âme est dans l'amertume. Mon âme est altérée. Mon âme est attachée à la poussière. Mon âme est dégoûtée. Mon âme est dans la détresse. Mon âme est brisée. Mon âme est ébranlée. Mon âme pleure de chagrin. Tu sais les angoisses de mon âme. Mon âme est desséchée, etc. » Qu'est-ce que ça nous montre? Ben c'est bien, parce que ça nous montre justement tous les combats intérieurs. Oui ou non? On a des combats, on n'ose pas se... Ça va? Oui, ça va, bien sûr que ça va. Moi, vous pouvez me demander tous les jours si ça va, même la seconde où je vais mourir, je vous dirai que ça va bien, parce que je sais où je vais. Mais parfois, on n'est pas obligé d'expliquer tous les combats que l'on traverse. Oui ou non? Vous voyez, vous, en train d'expliquer à tout le monde les combats que vous traversez? Soyons sérieux. Ça va? Oui. Et on ne ment pas, parce que c'est vrai que quand quelqu'un est sauvé, il peut dire « ça va ». C'est sûr. Mais il n'empêche que notre âme peut être en difficulté. « Tire mon âme de sa prison ». Il y a une honnêteté qui doit caractériser le peuple de Dieu. Et ce que je viens de vous citer est dans les Écritures. Dans les Écritures, ça devrait absolument nous rassurer. Oui, il y a des combats intérieurs. Satan vous a réclamé, pour vous, criblé. Je le répète, Dieu aurait pu l'empêcher, mais il en avait besoin. Il avait besoin d'apprendre à ne plus se confier en lui-même. Il se comparait aux autres, il pensait que lui ne le renierait pas. Il avait besoin de ce combat intérieur. Vous savez, le Seigneur, il aurait pu, à la conversion, il aurait pu dire « les hommes n'auront plus de problème ». Non, on a besoin d'être formés. Alors, comment la situation de Pierre a été réglée? Par la prière. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mes frères et sœurs, je le répète, avez-vous des difficultés avec la prière? Je le répète, parce que je sais que les chrétiens, ils n'écoutent pas souvent. Je le répète, si vous avez de la difficulté avec la prière, écoutez bien cette exhortation, parce que Dieu veut que votre âme soit en bonne santé. Vous pouvez en être sûr. Je ne sais pas si votre corps vous fait des siennes. Je ne sais rien. Mais une chose est sûre, votre être intérieur doit être renouvelé. Même si votre être extérieur s'abîme, comme dit l'apôtre Paul. Et si le Seigneur nous demande, voyez, de veiller attentivement sur notre âme, qu'est-ce qu'il ajoute après? Qu'est-ce qu'il ajoute? Tous les jours de ta vie. Vous attendez de ce que votre pasteur veille sur votre âme. Et vous avez raison. Est-ce que c'est écrit, des pasteurs, ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte? Je rendrai compte à Dieu pour cette prédication. Pourquoi? Parce que j'ai le devoir de veiller sur votre âme. Mais vous aussi, le verset que je vous ai cité en premier, je suis sûr, je suis convaincu que Dieu me l'a donné pour que vous vous édifiez vous-même. Et pourtant, je sais très bien que dans la rue, vous aurez peut-être déjà oublié ce verset dans Hébreux chapitre 5 qui devrait vous permettre de faire en sorte que votre piété soit véritable afin que quand vous prierez, Dieu n'exauce pas que vos prières peut-être superficielles, mais que Dieu exauce vos prières à cause de votre piété. Si ça ne vous intéresse pas la piété, c'est sûr que vous allez vite classer ce verset aux affaires oubliées. Veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie. Pourquoi au fait? Parce qu'il y a deux choses, de peur que tu n'oublies les choses, et de peur qu'elles ne sortent de ton cœur. Combien de temps faut-il pour que les choses de Dieu sortent de notre cœur? Mais vous arrivez au bout de la rue. Si votre cœur est dur comme un chemin, les oiseaux du ciel ont déjà enlevé la semence. Et je ne parle pas de mémoire, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une grande mémoire, mais on peut quand même noter des choses qui sont importantes. Vous le croyez, oui ou non? On peut, ça coûte absolument rien de dire, tiens, ça c'est important, je le note, je fais une petite marque dans ma Bible, j'y reviendrai ce soir, je me mettrai à genoux, je vais attaquer ce problème. Si Dieu n'écoute pas que la prière, mais Dieu me regarde, c'est écrit plusieurs fois, quand je prie, j'aimerais que ma piété soit réel, de peur que tu n'oublies, le Seigneur il sait comment on oublie vite les soucis et toutes les contrariétés, combien c'est vite fait d'oublier quelque chose, le Seigneur il nous connaît, et tout ça ce n'est pas dit dans un esprit de jugement, c'est dit dans un esprit d'intelligence, dans le sens que nous comprenions bien que Dieu sait ce qu'il a à nous dire, tout ce que Dieu dit est intelligent, tout ce que Dieu nous a laissé dans son saint livre est utile, c'est écrit, la parole de Dieu, elle a été inspirée pour être utile. Ça, vous, alors il y en a qui disent, oui, mais M. Gauss, ça a été prononcé il y a 2000 ans. Eh bien, écoutez-moi bien, c'était certainement utile il y a 2000 ans. Mais moi, je crois, compte tenu des prophéties qui s'adressent à nous pour aujourd'hui, c'est encore plus utile pour nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais quand je vois les prophéties qui concernent l'enlèvement de l'Église, soyons logiques, c'est encore plus utile pour nous. Et quand les gens disent « ouais, mais c'est un vieux livre », comment un vieux livre? C'est pas un vieux livre. La parole de Dieu est une parole éternelle. Nous devrions avoir un respect. Hier, je lisais quand Jésus parle et qu'il dit « mais n'avez-vous pas lu ?» Quand Dieu parla à Moïse, au sujet du buisson ardent. Oui, Dieu a parlé. Dieu parle. Et nous devrions être archi sérieux. C'est pour cela que l'ennemi cherche à détruire notre intercession. Oui, c'était important à l'époque. Mais croyez-moi, c'est encore plus important aujourd'hui. Priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'était utile pour l'apôtre Pierre ou c'est utile pour vous, mes frères et sœurs? Si c'est dans la Bible, c'est utile pour tous les hommes, quel que soit le siècle dans lequel ils sont nés. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Un chrétien qui ne prie pas ne résistera pas. Un chrétien qui ne prie pas ne sortira pas vainqueur de la tentation. Écoutez, vous pouvez le calculer comme vous voulez. C'est écrit dans la Bible et ça a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Est-ce que vous savez où vous en êtes? Est-ce que je sais où j'en suis? Parce que vous connaissez ce verset, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, vous le connaissez bien. Et dès que nous cessons de prier, nous sommes en danger. Il y a des gens qui disent, oh c'est pas grave, je n'ai pas prié aujourd'hui, oh c'est pas grave. Mais bien sûr que c'est vrai que c'est pas grave en plus. Bien sûr que c'est pas grave. Ne jouons pas les spirituels. Mais bien sûr que ce n'est pas grave. Mais ça va être un jour. Et puis après, ça va être, le mois d'après, ça va être deux jours. Je me souviens de ce jeune, Albi, ça m'avait marqué, j'étais jeune pasteur. Et il y a un jeune qui était venu me dire, « Oh, monsieur, où est-ce que je peux aller au ski dimanche ?» Tu le vois, c'est à toi de voir. Et il a été au ski dimanche. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. L'année d'après... Monsieur Gou, est-ce que vous pensez cette année, moi j'y vais deux fois. Écoute, tu le vois, c'est entre toi et Dieu. Deux fois. L'année d'après, quatre fois. Vous avez compris la suite? L'année d'après, huit fois. Et l'année d'après, tous les dimanches. Et il a rétrogradé. C'est vrai ce que je vous dis. Je n'invente pas. Nous devrions savoir où nous en sommes. David dit, toi tu connais mon chemin. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes, ben dites-le lui, comme David. Tire mon âme de sa prison. C'est une véritable prison. Que de s'être trompé. Lui pensait qu'en fuyant Saül et en trouvant un refuge matériel, il l'aurait gagné. Non, il a compris que son refuge, ça ne pouvait être que le Seigneur. C'est bien que ce psaume soit marqué. Quand le Seigneur Jésus parle sur la prière, quand Jésus dit, comme on l'a lu tout à l'heure dans Luc 21, « Priez, veillez donc et priez en tout temps. » Alors je vous pose une question. Est-ce que Satan il connaît ce verset, ce texte ? Est-ce que Satan connaît Luc 21 ? Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. Est-ce que Satan connaît ces textes ? Bien sûr. Et bien sûr, il les connaît. Et justement, parce qu'il les connaît, il va absolument tout faire pour nous empêcher de veiller et de prier. Vous le comprenez bien ? Pas de servir. Servir, ça ne veut rien dire. Jésus le dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais nous avons prophétisé. Oh, la prophétie, ben oui. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit, Jésus ? Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne parle pas des combats. Je parle des gens qui volontairement commettent le péché. Et pourtant, il servait. Mais ça ne m'empêche pas. Qui vous dit que je ne suis pas dans le péché ? Qui vous dit ? Est-ce que si j'étais dans le péché, je pourrais prêcher ? Comment ? Ben oui. Oui ou non ? C'est un débat, ça. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on peut faire la comédie. Peut-être pas longtemps. Pas longtemps, peut-être. Mais en principe, ça peut, on peut la faire. Et le Seigneur, il regarde au fruit, pas aux dons. Et le fruit, il est lié à la communion avec Dieu. Le diable connaît ces textes. Il les connaît par cœur. Vous avez vu comment dans la tentation dans le désert, le diable a utilisé la parole avec une précision. Il a des millénaires d'expérience et il sait comment détruire la foi de quelqu'un. Et tout faire pour que le quelqu'un, quel qu'il soit, ne soit pas debout quand Jésus apparaîtra. Et croyez-moi, le diable, il est patient. Je vous ai parlé de ce jeune Albi qui a rétrogradé. Et mais on pourrait prendre des textes dans la Bible. Comme même, je pensais hier en préparant cette prédication à Chipotel. Chipotel, qui était vraiment un conseiller de David en plus, voyez, qui a dit, attendez qu'il soit fatigué. Les frères de Goliath, quand est-ce qu'ils ont... attendu, ils ont attendu des années que David soit vieux et fatigué. Et heureusement que David était entouré de ses amis, de ses frères, qui ont combattu avec lui. Quelle est belle cette image lorsque nous combattons ensemble. Parce que si nous ne le pouvons pas, c'est vrai, parler de toutes nos luttes intérieures, de tous nos combats intérieurs, parce que franchement, c'est pas à propos toujours. Vous vous voyez en train de tout dire, tous vos combats intérieurs ? Mais nous pouvons quand même, avec les enseignements de notre Seigneur, qui nous a tout annoncé à l'avance, dire « mais priez pour moi ». Je suis moins malheureux lorsque j'apprends que dans une église, les deux prédicateurs ont fait un burn-out. Moi, je me dis, bon, je sais qu'il y a des combats, mais je me demande si les chrétiens ont soutenu les pasteurs. Peut-être que le pasteur était critiquable, mais ça n'empêche pas que même s'il y a des problèmes, on peut soutenir son pasteur. Alors, c'est un gros débat. Mais moi, ça m'interroge. Je répète, le diable, il connaît très bien Luc 21, ainsi que toute la Bible. Veillez et priez. Il n'y a pas d'autre moyen pour rester debout. Souvent, nous les pasteurs, nous voulons tellement que l'évangélisation se fasse, ça part de bonne intention, et on pousse les gens, allez faites ceci, faites cela, allez évangéliser, et servez, et Dieu a une vision, et tatatitatata. Moi je crois qu'avant de servir Dieu, il faut être un adorateur et un intercesseur. Tu l'adoreras, et tu le serviras. Ce matin, je priais, je pensais à tous les pasteurs qui ne font plus à l'église. Des amis. Il y a plein d'explications. Veillez et priez parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour paraître debout. On le relit, s'il vous plaît, je pense qu'il faut le relire. Je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on le relise, ce verset. Vous savez, c'est sérieux, c'est archi-sérieux. Donne-nous ta parole, donne-moi chaque jour le pain quotidien. Luc 21, 35. L'autre exhortation, c'est prenez garde à vous-même, il faut faire attention, les excès, machin, les soucis de la vie. Mais qu'est-ce que Jésus dit? C'est une prophétie, c'est pour ça que ça concerne maintenant. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Ne pensez pas qu'on sera plus protégé dans tels endroits, dans telles îles. Non. Ça viendra sur toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Non, oui, c'est une prophétie. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors cette parole, réellement, je vous pose la question consciencieusement. Je répète pour tous ceux qui ont un problème avec la prière. Cette parole, elle s'arrête où? Est-ce qu'elle touche votre tête? Et vous dites, ce que dit Monsieur Gau est biblique, c'est correct. Ou est-ce que vraiment cette parole touche votre cœur, votre âme, et vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose à corriger? Vous avez vu, Jésus parle d'un filet. Hier, je priais. Alors, écoutez, je ne voudrais pas que vous me preniez pour quelqu'un de mystique. Hier, je priais, bien sûr, par rapport à cette prédication, vous le comprenez. Et en priant, j'ai repensé au nombre de fois où j'avais entendu que des spécialistes appelaient Internet la toile. Alors, je ne sais pas si c'est venu de moi, parce que vous savez, des fois, je ne suis pas toujours inspiré, croyez-le. Mais quand même, je me pose une question, jusqu'où la toile n'est pas comme un filet dont les gens sont collés. Vous avez vu les toiles d'araignée? Comment elles piègent les moustiques, les sauterelles, les papillons? Vous avez vu comment c'est magnifique. Quand la mouche arrive sur la toile, c'est trop tard. Elle se colle et l'araignée, en une fraction de seconde, elle l'a saucissonnée avec sa toile. Franchement, j'ai hésité avant de vous dire ça parce que je ne veux pas être mystique. Mais jusqu'où certaines choses de la terre ne sont pas un filet? Je me permets de dire ces choses parce que j'ai souvent entendu des chrétiens me dire « Monsieur Gauche, j'arrive pas à faire mon culte le matin, je reste jusqu'à 1h du matin sur mon portable. » Et des gens qui en souffrent. Il pourrait dire, mon âme est en prison. Ils ne voudront pas le dire, parce qu'il y a un moment donné, il y a une honnêteté. Mais si, moi je ne suis pas contre la télé, tout ça, si on regarde, si c'est juste des choses saines, on le sait, soyons intelligents. Mais, si c'est multimédia, nous colle comme une mouche dans une toile, je me demande, alors, c'est ma pensée, mais si Jésus, il ne fait pas allusion, lui qui savait tout. Le Jésus parle de ce jour où le monde sera pris par ce filet. Ces jours difficiles où les gens, justement, c'est écrit, où les chrétiens n'auront, beaucoup de chrétiens n'auront que l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'apparence de la piété? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'apparence de la piété? Puisque c'est un des signes de la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'apparence de la piété?
Comment ? Oui, on fait semblant d'être un chrétien. On fait semblant d'être un chrétien. Regardez. Je me promène avec ma Bible sous le bras. Une fois, je suis sorti en jogging. Je suis sûr que les gens pensaient que je faisais du sport. Ouais. Je suis sûr qu'ils l'ont cru. Ça m'a fait du bien.
Les gens auront l'apparence de la piété. Est-ce que vous comprenez, mes frères, que quand nous prions, vous l'avez lu avec moi en début, Dieu te regarde. Et cette vraie piété fait que Dieu va t'exaucer. Je pense que ça vaut la peine que nous refassions une étude sur la piété pour comprendre que nous serons exaucés à cause de nos prières, qui sont dans la volonté de Dieu, bien sûr. Pas des prières superficielles, je comprends pas Dieu, ça fait 10 fois, 20 fois que je prie pour gagner à la loterie, je gagne pas, je prie plus. Je pense que cette prière-là, elle est inutile. Elle est inutile. Par contre, si nos prières sont, Seigneur, garde-moi de la tentation, je vais sortir, je travaille avec beaucoup de personnes du sexe opposé, ça... C'est une tentation, Seigneur, garde-moi de la tentation. Vous croyez que cette prière, Dieu peut l'exaucer ? Seigneur, tu dis que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Montre-la-moi, que je la discerne. Les chrétiens, ils ont... Je vous assure, j'avais été dans une église, moi j'avais dit, est-ce que vous savez ce que c'est la piété ? Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est quoi la piété ? Des chrétiens. Et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu veut que sa maison soit une maison de prière, où les prières sont exaucées, bien entendu. Est-ce que nous voulons être prêts ? Alors, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, on va quand même lire ce texte. Dans Timothée. Parce que je pense, mais je le sais, je le sens dans mon esprit, qu'il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Ça me brise le cœur. Et le diable, il le sait, ça aussi. Je ressens, vous voyez, dans mon esprit que même dans cette église, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Quand je vous disais que c'est encore plus utile aujourd'hui, vous le comprenez mieux avec une de ces prophéties. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Et il parle des chrétiens, là. Il ne parle pas des pécheurs. Laissez-moi vous la dire, la preuve, vous allez le voir. Amis de l'argent, l'égoïsme, vous ne croyez pas que l'égoïsme... Pourquoi tant de foyers ont divorcé ? Moi, je ne veux pas juger. Mais je pense que si nous avions été beaucoup plus altruistes, les uns vis-à-vis des autres, il y aurait certainement beaucoup de tendresse dans des foyers. Amis de l'argent, quelle grâce d'avoir ce qu'il faut, oui ou non ? Mais quand l'argent commence à nous dominer, ce n'est pas bon, ça. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Vous vous rappelez un des brigands sur la croix ? Qu'est-ce qu'il est dit de lui ? Vous vous rappelez ce qu'il est dit ? C'est l'impie. Vous savez qu'il a fait une prière ? Vous savez qu'est-ce qu'il est dit de cette prière ? Que c'était une insulte. Il a juste dit, si tu es le Fils de Dieu, descends et fais-nous descendre. La Bible dit, le Saint-Esprit voulait que nous sachions que cette façon de prier est une insulte. Vous savez, quand on donne des ordres à Dieu, je pense qu'on n'est pas loin du blasphème. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir, plus que Dieu, ça s'adresse aux chrétiens. Ayant l'apparence de la piété, les païens, ils n'ont pas l'apparence de la piété, ils n'ont rien du tout. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous avez vu combien il faut veiller les uns sur les autres, dans une église même ? Il faut même s'éloigner de gens qui n'ont que l'apparence de la piété parce qu'ils risquent de nous entraîner. Veillez et priez en tout temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut être à genoux 24 heures sur 24 ? Non. tout temps, ça veut dire qu'on traverse toutes sortes de temps. Il peut arriver qu'on est découragé. Oui, est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Quand je suis découragé, est-ce que j'ai envie de prier? Ben non. C'est rare, les gens qui sont découragés, c'est bien, tant mieux. Si vous faites partie de ces gens-là qui, même découragés, prient, c'est très très bien, très bien. C'est tout à votre honneur. Mais si je suis dans l'épreuve, avouez que quand je suis dans l'épreuve, c'est pas facile de prier. C'est pas facile de prier. J'ai pas envie. J'ai commis un péché. Ça peut arriver qu'un chrétien commette un péché? Eh bien sûr. J'ai commis un péché. Et voilà que tout d'un coup, je n'ai pas envie de m'approcher du trône de la grâce. Au nom de la sainteté de Dieu, tout d'un coup, c'est bizarre comment... Comment il y a quelqu'un qui se charge de me montrer la sainteté de Dieu? C'est bizarre. Alors que c'est le meilleur moment, quand on a péché peut-être, de s'approcher de Dieu. Oui ou non? C'est le meilleur moment. Et quand j'ai des soucis, il me manque un peu d'argent pour arriver à la fin du mois. Ça me désole, je suis malheureux, je ne peux pas donner à mon épouse ou à mes enfants. Mon fils m'a demandé un nouveau cartable, je n'ai pas pu l'acheter. C'est un souci. Je n'ai pas envie de prier. Mon chemin est difficile. Vous avez vu David, son chemin, il a fait un mauvais choix. Il se retrouve dans un refuge, il se rend compte que ce n'est pas le bon. Et il est là, mon âme, tire mon âme de la prison, j'en peux plus. Mais il le fait, il parle à Dieu et Dieu va le sortir, bien sûr. J'ai trop de travail. J'en ai pas. J'ai pas envie de prier. J'ai été contrarié, un de mes enfants m'a fait de la peine. Mon conjoint m'a contrarié, il m'a déçu. Oui ou non, ça peut arriver, ça? Je n'ai pas envie de prier. Les plaisirs du monde. Est-ce que les plaisirs du monde ne sont pas un danger pour nous empêcher de prier? Moi, je crois que oui. En plus, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, si le Seigneur nous dit « Priez en tout temps », nous ne devrions pas l'interpréter comme un commandement. Moi, combien de fois on m'a dit, oh, moi, les commandements, ça m'énerve. Moi, je vois les paroles du Seigneur, je ne sais pas si c'est bien, je pense que c'est bien. Moi, aujourd'hui, je crois pouvoir dire que je vois tous les commandements de Dieu comme une invitation. Franchement. Vous trouvez que ça tient debout, ce que je vous dis? Ouais, ça tient debout. C'est une grâce. Lorsque le Seigneur Jésus, dans sa bonté, a pris le temps de nous dire ces choses, il sait très bien que sur la terre, il va y avoir un filet dans lequel on va tous se faire piéger si on ne prie pas. Et ne vous imaginez pas que quelqu'un est plus fort qu'un autre en disant « Mais moi, je fais gaffe, moi, je ne me ferai pas piéger. Ouais, les tentations, t'inquiète. » Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Si nous ne prions pas et si nous ne veillons pas, nous ne résisterons pas à la tentation. N'imaginons pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse partie d'une élite au niveau spirituel. Dans la Bible, il n'y a aucune élite. On est tous pareils. On est tous sur le même pied d'égalité. Prions comme Dieu veut, je le répète. Ne faisons pas des prières bêtes, inutiles. Demandez-le. Demandez à des anciens, tiens, je prie pour gagner à la loterie. Non, ne riez pas. Parce que ça peut arriver, quelqu'un peut le faire d'une manière très sincère. Moi, je vous dis que cette prière, elle est inutile. Par contre, priez pour que Dieu tire votre âme de la prison. Seigneur, je suis emprisonné, c'est vrai que le matin, je n'arrive pas à me lever, mais c'est normal. On ne peut pas faire l'un ou l'autre, les deux. Ou vous vous tenez devant Google, ou vous vous tenez devant Dieu. Je suis sérieux. Parce que je rendrai compte à Dieu, je vous le dis de temps en temps, mais je tiens à ce que vous le sachiez, que c'est une chose que Dieu m'a vraiment montrée. Que je rendrai compte pour toutes mes prédications. Et j'aimerais que ça se passe bien, voyez. Donc un homme doit prendre au sérieux la parole de Dieu. Et si vous avez de la difficulté à prier, eh bien, priez, Seigneur, mais garde-moi de ces choses qui m'empêchent de me tenir devant toi. Vous connaissez ce proverbe, celui qui est rassasié, foule aux pieds le rayon de miel. Moi, c'est un verset par lequel Dieu m'a beaucoup parlé. C'est sûr que si le monde nous rassasie, tout ce qui rentre par les yeux et par les oreilles devient forcément de la nourriture. Donc si je suis rassasié des choses du monde, eh bien, je n'aurai pas envie de lire et de prier. Ça, c'est sûr. Seigneur, Remplis-moi de ton esprit. Chaque fois que vous priez, vous connaissez la prophétie de la parabole des 10 vierges. Quel est le seul conseil que Jésus donne après avoir expliqué que des vierges étaient folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur?
Veillez.
Chaque fois que vous priez, mes frères, chaque fois que vous priez, vous vous en rendez compte ou pas, chaque fois que vous priez, votre lampe se remplit d'huile. Chaque fois. C'est comme ça. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Moi, vous savez, je n'ai pas fait l'école biblique. Mais je sais que si Jésus dit « Veillez », c'est parce que quand on prie, je prierai pour mon Église. Je vous parlais tout à l'heure de ces deux pasteurs qui ont fait un burn-out presque en même temps. Je suis persuadé que Dieu a permis que je sache ça. Parce que je voudrais savoir si les chrétiens prient pour leur pasteur. Vous priez pour moi? Est-ce que vous le faites vraiment ou parce que je vous le demande? Ou est-ce que vous le faites avec votre âme? C'est important de le faire. Je sais que si Dieu me tient, c'est parce que les gens prient pour moi. Ça, je suis sûr. Seigneur, aide-moi à tenir debout. Ça, c'est des prières que Dieu exauce. Seigneur, j'ai perdu courage. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Eh bien Seigneur, je vais me mettre devant toi, assis à genoux, qu'importe. Je me mets devant toi et je vais prendre du courage. Et je peux vous dire que si vous lisez, pas si vous lisez, si vous méditez le psaume 142, parce que je vous en ai parlé, ou un autre, ou plusieurs, eh bien je vous dis que Dieu vous donnera du courage. Vous le sentirez peut-être pas de suite, mais au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, vous aurez votre cœur qui commence à se réchauffer et vous sentirez cette parole comme lorsqu'on mange, au bout d'un moment, on n'a plus faim, on est rassasié, notre corps est repu et ça le fait du bien. Eh bien, ça devrait être pareil lorsque nous lisons la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne nous rassasie pas, eh bien, réglez cette affaire, réglez-le, demandez-lui. Parce qu'il y a toutes sortes de temps. Priez en tout temps. Il y a des moments où on est calme. Il y a des moments où on est agité. Il y a des moments où on est béni. Il y a des moments où on est éprouvé. Il y a des moments où on est dans le désert. Il y a des moments où on est dans les verts pâturages. Oui, vous préférez? Vous savez, je sais ce que vous préférez. Des fois, on est seul. Des fois, on est tout seul. Des fois, on est bien entouré. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous préférez? La solitude ou être bien entouré? Mais les deux, il faut aimer les deux. Mais en tout temps, c'est ça. Je suis seul en ce moment, j'ai perdu mes amis, tout le monde me fait la tête, je ne comprends pas. Peut-être que Dieu permet ce temps. Vous croyez que le Seigneur y contrôle? Tu règnes au siècle des siècles. Après, les gens, ils sont dans l'église, ils prient comme ça. Seigneur, tu règnes au siècle des siècles. Ben oui, justement, si tu sais que Dieu règne, il peut permettre que tu peux perdre des amis pendant quelque temps pour que tu puisses apprendre à prier pendant ce temps de solitude. Prier en tout temps. On peut être malade. Est-ce qu'il faut prier quand on est malade? Ben oui, même si on ne prie pas, peut-être avec des grandes phrases. Quand on est malade, on peut prier par des soupirs. La Bible dit que l'esprit intercède par des soupirs. C'est sûr que si vous allez voir quelqu'un qui est à l'hôpital, qui vient de subir 3 ou 4 opérations, et prie, Monsieur Gou, il a dit, il faut prier tout le temps. T'es malade, prie. Je crois que là, c'est peut-être pas à propos, voyez. Mais moi, je suis persuadé que le chrétien qui est malade, qui est en difficulté, je crois qu'il prie par des soupirs inexprimables aussi. Mais vraiment, je le crois. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mes frères et sœurs, à ne pas tomber dans le légalisme. Le problème des églises, c'est qu'elles sont tombées ou dans le légalisme, ou dans le laxisme. Ça a mené l'apostasie. Le laxisme a mené l'apostasie et le légalisme a amené la désapprobation de Dieu. Ça, c'est sûr, certain. Alors, terminons par cette exhortation, cette question. Imaginez que c'est le Seigneur qui vous la pose. Avez-vous une vie de prière? Si vous pouvez répondre oui, eh bien, persévérez. Si vous répondez non, eh bien, moi, je vous dis, retrouvez cette grâce, parce que c'est une grâce. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas possible. Le Dieu qui a institué la prière n'a pas institué des corvées. Notre cœur, il n'est pas fait pour des commandements. Notre cœur, il est fait pour la communion. Je vais retrouver cette grâce. Je vais apprendre à combattre. Je vais noter sur un papier les situations qui me préoccupent. Parce que des fois, j'oublie, tiens, je connais tel pasteur qui est là-bas à La Réunion, je connais tel autre qui est en Martinique, j'en connais deux ou trois à Paris. J'oublie, je vais le faire. Et Dieu vous aidera. Seigneur, aide-moi à retrouver cette grâce. Aide-moi à combattre avec mes frères. Aide-moi à me retrouver seul dans ma chambre et à chercher ta face. Parce que j'ai compris un peu ce matin que quand je prie, tu n'écoutes pas que mes prières, tu regardes à ma piété. Priez pour moi. Demandez de l'aide. Vous avez quand même des amis dans l'église. Vous pouvez demander à 5, 6 personnes, 12 personnes. Et prie pour moi. Ce matin, ça m'a travaillé. Jésus a dit à Simon, il n'a pas dit à Simon, mais que tu es un pauvre gars. Mais qu'est-ce que tu as à te comparer aux autres? Tu te crois meilleur? Est-ce qu'il aurait pu le lui dire?
Il aurait pu lui dire. Mais tu n'en as pas marre.
Tout le temps en train de te comparer aux autres, mais qu'est-ce que tu es pénible. Non, j'ai prié pour toi.
Quelle grâce. Et quand tu seras revenu, Jésus croyait à ses prières quand même. Affermis tes frères.
Eh bien, moi, je vais travailler pour que l'Église soit affermie. Oui, je me sens repris, je ne suis pas content, ce que dit cette prédication, ça m'interpelle. Ça vous déplaît ou ça vous plaît, au fait? Elle vous plaît, cette prédication, ou non? Si elle ne vous plaît pas, c'est que quand même, ça ne va pas. Je veux soutenir mon frère, je veux soutenir ma sœur, je veux ressembler à Hur et à Aaron qui soutenaient les bras de Moïse. Pourtant, Moïse, on aurait pu dire, écoute, Moïse, toi, tu n'as besoin de personne. Ce n'est pas vrai. Priez chacun pour soi. C'est pas biblique, c'est prier les uns pour les autres. Si vous êtes dans ce cas, ah mais moi je veux pas d'histoire, je prie avec personne, je prie à la maison. Priez à la maison, mais priez chacun pour soi, je peux vous dire que ça plaît pas à Dieu. Priez les uns pour les autres. C'est comme ça que ça marche. Je termine. Paul, dans Philémon, dit de cet homme que par lui il ne cherchait pas. Le cœur des frères a été tranquillisé. C'est beau ça, non? Paul, il écrit à cet homme. Et tu sais, par toi, le cœur des frères a été tranquillisé. Je ne sais pas ce que Dieu dira de vous le jour du grand rendez-vous. Vous y croyez à ce rendez-vous? Le grand jour où vous allez, vous et moi, où nous allons comparaître devant le grand berger, le Père éternel. Qu'est-ce que Dieu te dira? Vous aimeriez que Dieu te dise, ma sœur, ma fille, par toi, sur la terre, des rétrogrades sont revenus. Ah bon? Ouais, 180. Est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça?
Mais oui.
Par toi, ton pasteur est resté accroché. Vous croyez que ça peut se présenter, ça?
Mais bien sûr, croyez-moi.
Par toi, des âmes ont été sauvées. C'est écrit dans Jacques, celui qui ramènera une âme de la mort à la vie couvrira une multitude de péchés. Par toi, les frères ont été tranquillisés. C'est beau dans une église lorsqu'on se tranquillise, lorsqu'on s'apaise les uns les autres. C'est ça l'église. Une église où il n'y a pas la paix, c'est qu'il n'y a plus le Seigneur, c'est sûr. Mes frères et sœurs, prenez cette exhortation comme... Comment vous la prenez cette exhortation en fait? Comme un encouragement? Comme un avertissement? Comme une invitation? Moi je la conçois comme une invitation. Pas comme un commandement. Priez mes frères, priez, il faut prier, il faut prier. Non, il ne faut pas prier. Il faut développer une merveilleuse communion avec le Sauveur de notre âme.